De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben, je vous écoute, parlez, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
J'en suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique.
C'est délicieux, nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour, encore une fois, nous avons laissé de côté les films des grands studios présents dans toutes les salles du pays pour des films plus confidentiels, mais qui méritent qu'on s'attarde sur eux, et des films d'ailleurs qui ont tous, eh bien, un titre de nom ou de prénom. Alors toi, tu as tiré quoi comme prénom?
Alors moi, c'est que des prénoms masculins pour le coup, puisque je vais vous parler du nouveau film de Xavier Dolan, Mathias et Maxime, et également du nouveau film de PEF qui s'appelle Faïm.
Et toi? Manu.
C'est une adaptation de Jack London, Martin Eden, et puis je vous parlerai aussi d'un film alors, très confidentiel, Bleu Palebourg.
Et puis moi, eh bien, j'ai tiré comme prénom Camille, voilà. Ça c'est pour les films, et puis à noter qu'on pourra jouer aussi un blind test dans cette émission, sur la tradition. Et là, aujourd'hui, on a choisi de jouer avec la filmographie de Xavier Dolan. Il n'a pas fait beaucoup de films. Mais ça donnera
quand même 8 films en 10 ans, c'est pas mal. Hein.
Mais bon, ça reste petit, puisqu'on a quand même 5 extraits, donc ça veut dire qu'il y a seulement 3 films qui sont exclus de, voilà,
des extraits. Ah, je vais dire au pif, voilà. Alors.
Donc, vous écouterez 5 extraits, il faudra deviner les titres de la filmographie de Xavier Dolan. C'est comme ça que débute Cinérama avec Camille, un film qui nous emmène en Centrafrique.
J'ai des exos pour les meilleurs films qu'on passe en ville.
Cinérama,
parfait, judicieux, simple et logique.
La Centrafrique retient son souffle. 13 personnes sont mortes il y a 3 jours au nord de la capitale.
Les Sénégalais sont passés porte par porte, ils ont tué mon voisin, ils sont entrés chez moi.
Camille de Boris Lochkine retrace les derniers mois de la photoreporter Camille Lepage, assassinée en 2014 en Centrafrique alors qu'elle couvrait, eh bien, déjà depuis quelques mois la guerre civile auprès des anti-Balaka, un groupe de combattants qui réclamait vengeance après les attaques meurtrières des Séléka, des groupes majoritairement musulmans. Ce sont eux, hein, qui en mars 2013 ont pris le pouvoir par les armes à Bangui et qui vont faire régner la terreur jusqu'à commettre des massacres d'envergure en décembre 2013, tuant des milliers de Centrafricains. Alors c'est quand même important de rappeler ça, car la France a joué un rôle dans ce conflit. Le président Hollande, en décembre, fera une allocution télévisée dans laquelle il annoncera le déploiement des troupes françaises pour contenir les massacres.
Vous, vous êtes étudiants tous?
Oui. Et toi, tu es journaliste?
Je fais de la photo, moi, juste. J'ai 25 ans.
25 ans? T'as pas peur?
Non.
De cette période, Camille Lepage a tout vécu. Âgée de 25 ans, on vient de l'entendre, eh bien, elle est nouvelle dans le métier. Et avant d'arriver en Centrafrique, elle est restée quelques mois dans le Sud-Soudan pour l'AFP, avant de se décider à devenir indépendante avec les contraintes que cela suppose. Sans conflit, sans horreur, sans larmes, sans le sang. Les reportages photos ont peu de chances d'être pris par la presse, essentiellement magazine. Alors le film de Boris Lochkine suit le parcours de Camille Lepage dans un pays finalement méconnu, la Centrafrique, autant qu'il s'attarde sur la posture de la photoreporter qui est de tous les plans. L'intelligence de la mise en scène est d'abord de parvenir à reconstituer quasi fidèlement les événements qui ont touché la Centrafrique. Pour comprendre la situation, Boris Lochkine donne des intertitres afin que le spectateur ait le déroulé des événements, et je vous assure que ça aide bien. Alors contrairement au film Atlantique de Mati Diop, dont je parlais il y a 15 jours, ici les acteurs, bien que majoritairement non professionnels, s'en tirent très bien. La distance avec les événements alors est mince et n'est vue qu'à travers les yeux de Camille Lepage. C'est l'autre aspect de la mise en scène. Ce que nous donne à voir le réalisateur n'est pas un biopic sur cette photoreporter, mais une fiction autour de cette vie perdue, de ce parcours de vie. Alors on voit pour ainsi dire une jeune femme prendre part à son premier lynchage, on la voit se mêler à la jeunesse du pays, comme aux vieux briscards de la profession qui sont également présents sur le terrain, des photoreporteurs qui la mettent en garde.
Tu rencontres pas les gens. T'es d'un côté de l'objectif, et puis ils sont de l'autre.
Tu peux pas te mettre à leur place, c'est impossible.
Je sais pas.
Alors, dans ce film, le réalisateur laisse entrevoir les premiers succès de la photoreporter et ce qui va la faire basculer. On voit aussi son refus d'être envoyée dans un autre pays en guerre, par exemple, hein, son souhait viscéral, son souci éthique de retourner en Centrafrique pour continuer de témoigner avec son appareil photo, eh bien, de ceux que les journaux et les lecteurs finissent par oublier. Quand elle retourne dans le pays plus que jamais meurtri, elle décide de suivre un groupe armé. La mise en scène appuyée nous laisse entrevoir que c'est là un destin tragique qui s'annonce. C'est méticuleusement que Boris Lochkine entremêle le désastre destin d'une personne et celui d'un pays. Soucieux d'être fidèle à l'histoire, il n'évite pas non plus la question de la responsabilité de la France hein, dans l'histoire de la Centrafrique. À la photoreporter qui ne comprend pas comment son ami centrafricain peut penser qu'éliminer son ennemi est la solution au problème de son pays, eh bien, ce dernier lui répond que le blanc n'a pas plus à dire quoi faire.
Ici là, vous n'êtes pas chez vous.
Vous c'est qui? Vous c'est moi?
Tu te crois meilleur que les autres? Tu viens, tu prends et tu pars.
Dans ce contexte de guerre civile, c'est évidemment caméra épaule hein, que Boris Lochkine a décidé de cerner son sujet. Camille Lepage est interprétée par une Nina Meurice qui parvient à transmettre les interrogations mais aussi les certitudes de cette héroïne tragique qui cherche à être proche des sujets qu'elle photographie. Et à la manière d'une photo contrastée, eh bien son visage sait être sombre mais aussi lumineux.
T'es sûr que tu veux aller? Tu veux venir avec nous?
Je suis sûr.
Voilà, Camille de Boris Lochkine vient après Hope. Alors c'était il y a 5 ans déjà, le réalisateur racontait l'histoire de 2 migrants qui se rencontraient sur le chemin de l'Europe. Enfin, ils se rencontraient en Afrique sur le chemin de l'Europe via le Maroc. C'était déjà un film qui, moi, m'avait énormément touché. Et un film très documenté, c'est quand même du cinéma du réel. Mais il y a tout de même derrière une vraie mise en scène aussi. Camille de Boris Lochkine, c'est en salle depuis le 16 septembre. Tout comme le film Martin Eden, Manu, dont tu vas nous parler.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Et croyez-moi, ce ne sera pas long.
Alors avec Martin Eden, hein, libre mais fidèle adaptation du roman de Jack London, l'Italien Pietro Marcello livre une transposition cinématographique romanesque servie par la performance et le physique colossal de Luca Marinelli, acteur qu'on a déjà vu dans La solitude des noms premiers notamment. Alors dans le rôle de Martin, jeune marin napolitain. Alors de Jack London, on connaît surtout les récits de voyage, et notamment Cro-Blanc et L'appel de la forêt, qui ont contribué à sa popularité et à l'inscrire dans la lignée d'une littérature dite populaire. Mais popularité littéraire n'est pas littérature. La première ne permet pas d'accéder à la reconnaissance qui ne peut être, elle, que confidentielle, tandis que le succès public équivaut souvent, notamment pour l'auteur, à une véritable imposture. Alors c'est un peu cette expérience littéraire, celle de la création, que Pietro Marcello réussit à vulgariser dans Martin Eden en lui insufflant un souffle et une énergie vitale. Et il parvient ainsi à filmer une épopée sociale, politique et littéraire qui traverse le XXe siècle grâce à un dispositif cinématographique ingénieux qui brasse images d'archives, chansons populaires et cinéma expérimental. Alors par sa démarche sincère et authentique, Martin Eden est un hommage volontairement désuet à un auteur et à tous les auteurs, aux libres penseurs et à tous ceux qui engagent leur voix par amour, pour l'amour, en passant de l'engagement au désenchantement. Alors Marcello s'est emparé de cette odyssée romanesque en évitant la plupart des écueils inhérents à ce type d'entreprise. Il ne cherche pas à trahir le propos même du roman. Mieux, il en retrouve un peu l'esprit frondeur à travers un dispositif judicieux, très rapidement débarrassé de son artificialité. Les sautes de temps et autres anachronismes jouent en faveur d'un film qui embrasse l'histoire politique, sociale et culturelle alors d'une Italie qui retrouve, on va dire, la beauté sauvage et le romantisme d'un certain cinéma qu'on ne fait plus, celui de gens comme Mauro Bolognini, Pasolini. Et surtout, je pense que le cinéaste sur lequel il est le plus proche, c'est certainement Marco Bellocchio. Alors cette audace spatio-temporelle s'avère bien plus pertinente qu'une adaptation littérale et académique dans un style hollywoodien boursouflé. Alors en effet, parce que le film a des sautes de temps étonnants, tout est mélangé. Du début du siècle, on va dire au début des années 80, on a des détails, on retrouve des flippers alors qu'il y a des voitures qui datent des années 20. Enfin, c'est assez étonnant. Alors en créant comme ça un régime d'images hétéroclites, insérant des archives, évoquant curieusement des univers cinématographiques et en parsemant le film de chansons populaires, Pietro Marcello saisit l'essence du roman, trouve une sorte d'équilibre entre le fond et la forme. Alors le film ne pâtit pas de son matériau de base, il est vivant et vibrant, construit comme un long flashback, le long chemin de croix vers l'inéluctable vérité de Martin Eden, passant du jeune chien fou, épris de liberté et d'amour, rêvant d'être un grand écrivain, à sa décadence morale et physique. Alors tout ça est subtilement amené, l'intelligence du cinéaste tient à son choix radical de ne pas filmer la lente descente aux enfers de son héros tragique, de son effondrement idéologique et psychique face à la posture du costume d'écrivain. Alors au moment où il connaît enfin le succès, Marcello laisse un vide, un hors-champ temporel indéfini. Cet effet cut, cette coupure nette saisit le spectateur. Martin Eden, méconnaissable, les yeux injectés de sang, il n'est plus l'ombre de lui-même, sorte de dandy décadent, sorte d'Amadeus ou Barry Lyndon, qui aurait perdu toute illusion et tout désir une fois revêtu les habits nobles et bourgeois de l'écrivain adulé, dont la parole n'a plus aucune espèce de valeur. Si Luca Marinelli crève l'écran, Pietro Marcello l'a volontairement placé au milieu des autres et avec les autres, et notamment face à son mentor, son alter ego Brice Enden. Des scènes d'enfants aussi, d'une grande beauté mélancolique, scandent ainsi le film, rappelant qu'eux aussi traversent le temps, persuadés que la culture, l'instruction est le seul moyen de s'affranchir de sa condition, de s'élever à une conscience du monde qui passe par un engagement politique. Le socialisme, très important dans le film, hein, c'est tout, on est toujours entre, on va dire, une sorte de quête individuelle et le cinéma politique. Alors, en refusant de faire de Martin un leader ou une figure tutélaire et en adoptant le ton de la balade, Martin Eden est un vibrant réquisitoire contre le narcissisme de la création littéraire et un réel conte philosophique et politique, tout autant qu'une aventure humaine sombre qui aurait néanmoins les intonations, on va dire, d'une sorte de chanson populaire. Film très exigeant, mais qui adopte quand même une forme qui est accessible.
Martin Eden de Pietro Marcello, donc c'est en salle depuis le 16 octobre. Et donc après Camille, après Martin, voici Mathias et Maxime, où on apprend, me semble-t-il, bien qu'un baiser, ce n'est pas rien.
Comment faites-vous pour choisir un film ?
Cinérama.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, préciser ?
Est-ce que vous êtes déjà embrassé avant ?
Eh boy, j'aimerais faire de la vaisselle, là, ce
parce que c'est ça, la scène que vous allez jouer dans le court-métrage d'Erika.
Le gars qui se trinche.
On dit souvent, entre l'amitié et l'amour, il n'y a qu'un lit, façon de dire qu'il suffit de pas grand-chose pour qu'une amitié dérape. En l'occurrence, ici, eh bien, c'est un baiser échangé entre deux amis, Mathias et Maxime, pour les besoins d'un court-métrage qui va semer la confusion dans leur amitié vieille de plusieurs années. Maxime, interprété par le réalisateur du film, Xavier Dolan, est en réalité épris de son meilleur ami depuis longtemps. En revanche, Mathias, interprété par Gabriel Dalmeida Freitas, un humoriste québécois encore inconnu chez nous, se croit, lui, fermement hétéro, quoique sensiblement chamboulé par cet échange de salive.
Je suis pas capable de croire que tout ce qu'on a bâti depuis qu'on est enfant, nous deux, notre gang, notre cercle, que ça va tout prendre le bord du jour au lendemain pour une niaiserie, pour rien.
C'est à cause du film, hein, c'est ça? Sarah, ça voulait rien dire pour moi, comprends-tu? Je vais même pas le faire, OK?
Mais Matt, je sais même pas de quel film tu parles!
C'est ça, va te cacher! Bonne nouvelle, ça!
Tu sais, Matt, on se pose tous des questions un jour ou l'autre, hein? C'est ça, la beauté de la jeunesse. Avoir 30 ans. Avoir encore le temps.
Alors, on a laissé cette bande-annonce par respect pour tous nos auditeurs québécois.
Voilà, pour la langue, sinon... pour la beauté de la langue québécoise. Pour sa nouvelle réalisation, Xavier Dolan, que les médias appellent toujours le jeune prodige du cinéma canadien, malgré qu'il en soit quand même à son 8e film en 10 ans de carrière, un nombre de films que Terrence Malick a atteint en 35 ans, mais cela n'a aucun rapport. Xavier Dolan donc retrouve un cinéma très épuré qui lui ressemble après une échappée américaine pas vraiment heureuse, hein, Life and Death of John Donovan, qui était pour moi quand même un foirage à peu près total, que j'avais dû qualifier au moment de sa sortie dans cette émission de pot-pourri du cinéma de Xavier Dolan passé à la sauce hollywoodienne. J'avais également dû dire que le film ressemblait à une bande démo qu'il aurait faite pour donner envie à DiCaprio, son idole, de jouer dans son prochain film, un truc comme ça. Retour donc à un cinéma intimiste, en quasi huis clos, avec des acteurs qui parlent québécois, avec Dolan lui-même dans le rôle principal, comme c'était le cas dans ses premiers films, hein, J'ai tué ma mère, Les amours imaginaires et Tom à la ferme. Tom à la ferme qui est, je le dis à chaque fois que je chronique un Xavier Dolan ici, qui est l'un de ses meilleurs films et qui est le plus méconnu, je ne sais pas pourquoi. Bref, c'est un plaisir de revoir le cinéaste devant la caméra, car on ne le dit pas assez, mais Xavier Dolan est un très bon acteur et il le prouve encore dans Mathias et Maxime. Le film était présenté en compétition au Festival de Cannes, où clairement il n'avait pas vraiment sa place, hein, car le film est quand même loin d'être inoubliable. Dolan utilise un procédé scénaristique ici particulier, quoique assez classique, qui consiste à examiner, à disséquer tout ce qui découle d'un simple événement et la façon dont une chose en apparence assez anodine va affecter plusieurs personnes et la vie de ces personnes. Et comme c'est un cinéaste, eh bien, qui sait très bien analyser les tourments de l'âme humaine, le film réussit quand même à nous emmener dans sa narration, malgré c'est vrai qu'il ne s'y passe pas grand-chose. Mathias et Maxime est une œuvre simple, d'une légèreté assumée et maîtrisée, que l'on ne peut en aucun cas assimiler à de la paresse de la part du réalisateur. Et bien que le film ne fasse sans doute pas date dans sa filmographie, je pense que ce retour à son cinéma d'antan, d'avant, était sans doute un passage obligé dans l'évolution d'un artiste que finalement, nous spectateurs, eh bien, on a vu évoluer et devenir adulte au travers de ses films.
Et bien justement, on va faire un petit récap, comme on dit, de sa filmographie avec ce blind test, 5 extraits, donc sur, je le répète, le peu de films finalement qu'il a fait, même si avec son jeune âge, il a été quand même productif. Et je pense donc que ça va être d'ailleurs très facile parce qu'il y a peu de films à éliminer et qu'il y en a qui sont très reconnaissables. Premier exemple.
Pourquoi tu m'as pas dit que tu étais homosexuel ?
Parce que je suis pas homosexuel.
Pourquoi tu m'as pas dit que t'étais homosexuel ? Est-ce que tu m'imaginais un homme?
Je ne suis pas homosexuel, Fred.
Hey, arrête de me niaiser, tabarnak. Laurence, t'es fif. T'es fif, t'es gay, t'es gay. C'est pas la fête du monde, t'es gay.
Ok, Fred, c'est pas que j'aime les hommes. C'est que je suis pas fait pour en être un, et c'est différent. Hein? Tu vois, ça, c'est pas moi, ça non plus, c'est pas... Ça non plus, ça me dégoûte, c'est pas moi, ça, Fred. Ça fait 35 ans que je vis comme ça, et c'est un crime. Et j'ai ce crime sur la conscience. Et je suis un chien de voler sa vie à cette personne.
Ça a été trouvé.
C'était Laurence Anyway avec Melville Poupeau et Suzanne Clément, qui pour moi est son meilleur film. Vraiment, je le conseille beaucoup.
Eh bien, Suzanne Clément, je crois qu'il en est encore question dans ce film.
Le monde pense qu'avec le temps, on se met à aimer nos parents, puis que tout s'arrange. Mais ça va faire 10 ans qu'on ne s'est pas parlé.
Moi, c'est avec ma mère, là, on est complètement incompatibles. On n'a rien en commun. Rien.
Merci.
Merci.
La mère d'un fils ne sera jamais son amie. Cocteau.
Ton père et ta mère, tu aimeras? Dieu.
Ça a été trouvé.
J'ai tué ma mère.
Grosse répartie. Bim.
Alors, c'est un film de 2009, c'est son premier film, hein, avec donc Anne Dorval qui jouait sa mère, et puis là, Suzanne Clément qu'on entendait. Allez, troisième extrait.
On a été pompés. C'est moi, le poignet, c'est à cause de ma mère, hein? Ouais, tu sais, je suis pas capable. Je suis pas capable de la laisser tout seul. Un jour, il va même falloir que je la place, là. Là, elle est encore correcte, là, mais je me donne 5 ans avant que ça dérange.
C'est très caractéristique de ce film, cette scène.
C'était Tom à la ferme, parce qu'on est donc sur Gotham Project, dans la grange.
Oui, film de 2012. Et donc, j'avais même pensé, hein, parce que là, alors, j'ai choisi cet extrait parce que dans ce film, particulièrement le québécois, et c'est aussi le cas dans Mommy, est très compliqué à suivre si on n'a pas les sous-titres, hein, me semble-t-il. Voilà. Et je me suis dit que j'aurais pu faire d'ailleurs un blind test en jouant simplement avec les musiques qui sont dans les films de Xavier Dolan, puisque c'est un grand aspect de sa filmographie. Allez, un quatrième extrait.
L'école avait toujours été un refuge quand j'étais enfant. Et puis j'ai commencé le secondaire et avec ont commencé les brimades cruelles des hommes. Enfin, des garçons. Pour survivre dans cette jungle, il fallait devenir un animal. Et pour moi, c'était plus simple de plonger dans mes pensées. Et la télé.
Oh, un autre récit occidental de survie à l'intimidation. Bingo ?
Non. Mais pendant des années, tout ce qui m'intéressait, c'était John et cette série télé dont il était la vedette et autour de laquelle tout mon monde gravitait à l'époque.
Trouvé, là encore.
Oui, c'est Ma vie avec John Donovan. C'est reconnaissable parce que là, le film est doublé, du coup.
On y trouvait Nathalie Portman, notamment, et Kit Harington. Allez, dernier extrait de ce blind test.
T'as pas un plan plus à la mort molle pour les faire en famille, comme ça, tous ensemble, là ?
Antoine.
Non, mais je dis pas ça pour t'insulter, oui, mais...
Non, de toute évidence.
Non, je veux dire, on a mis, je sais pas, plus de 20 ans à se barrer de là-bas, et toi, tu veux retourner là-bas pour vérifier si le vent a bien déposé les feuilles mortes sur la toiture rouillée en cette magnifique calicule. On s'en branle, là. Je comprends pas le programme, là.
Et laisse-le, Antoine, écoute. Il a juste envie d'aller se promener. Je veux dire... Je peux t'accompagner, si tu veux, Louis.
C'est pas grave. Non, c'était une mauvaise idée.
Bah, évidemment. Moi, j'ai envie d'aller à Auschwitz pour aller me branler dans le sang séché pour écrire un poème.
Antoine, ça suffit. Mauvais goût, mauvais goût.
Ça a été évidemment trouvé, parce que c'est facile, notamment avec les acteurs qu'on entend, Vincent Cassel notamment.
Ouais, c'était juste à la fin du monde. C'était un petit peu crispant, ce film, hein, entièrement avec des comédiens français en huis clos. Des comédiens très énervés qui pleurent beaucoup.
Épouvantable, oui.
Ah merci, c'était ça. En fait, j'osais pas dire le mot.
Film de 2016 avec quand même des longues séquences où les acteurs parlaient parce que c'est effectivement l'adaptation d'une pièce de théâtre. Ainsi s'achève ce blind test donc sur la filmographie de Xavier Dolan. Et la suite de l'émission, c'est le seul film qui n'a pas de prénom, c'est Bleu Pambour. Et c'est toi qui nous en parles, Manu. C'est un film qui est alors présent dans, pour l'instant dans une seule salle en France, mais qui va avoir sa petite carrière après. Mais on précise que tu connais bien le réalisateur, donc ça, voilà.
Oui,
ça
voilà. Aussi que j'avais tu vu peux le chroniquer. Ancien film notamment. Oui.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Nous reviendrons aux questions plus tard.
Alors à une époque où Le Dernier est magnifique, enfin hein, ça ne regarde que moi, film de Jean-Luc Godard, le livre d'images ne parvient pas à se frayer un chemin, même de traverse dans les salles obscures, confirmant la frilosité des distributeurs et sans doute des exploitants, il n'est pas étonnant que Bleu Palebourg, deuxième long-métrage de Jean-Denis Bonnand, ne soit diffusé qu'en catimini dans des lieux confidentiels. Mais au moins, le film bénéficie d'un visa d'exploitation, ce qui relève du miracle lorsque l'on entreprend la réalisation d'un film aussi singulier, voire expérimental, avec un budget dérisoire. Alors 50 ans après La Femme Bourreau, hein, qui était un manifeste libertaire, interdit en France pendant 4 décennies, avant sa réhabilitation en 2015, Jean-Denis Bonnand, hein, qui est prof à la FEMIS, prof de cinéma, moins révolté et provocateur qu'en 68, revient avec un beau projet, alors difficile d'accès, mais passionnant. Alors Bonnand se plie à un exercice difficile, celui de mettre en image un texte, poétique et introspectif, adaptation d'un court essai de l'allemand Andreas Becker, Hula et l'effacement. Alors si personnel que l'écrivain lui-même tient le rôle principal, sorte de figure fantomatique imposante, avec ses longs cheveux blonds de viking, traversant le cadre avec une assurance tranquille. Alors il énonce en voix off ce texte assez déchirant, évocation douloureuse de l'histoire intime mêlée à la grande histoire. Il raconte la tragique existence de sa mère, Hula, née en 39 en Allemagne, emportée à 46 ans d'une cirrhose. Alors traumatisée à vie par son enfance sous les bombes, elle s'est réfugiée dans l'alcool pour oublier. Alors Palebourg, c'est Hambourg. Voilà, c'est pas Palebourg n'existe pas. C'est une ville inventée, imaginaire. Hein. Donc Hambourg, ville portuaire avec ses putes, ses banques et ses bombes. Une ville qui a volé une enfance parmi tant d'autres pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors Hula a échappé à la mort, mais a dû traverser et enjamber des cadavres, s'enfoncer dans des bunkers suintant l'angoisse. Elle a perdu son innocence très jeune et n'a pu s'en remettre. Alors Becker se met à nu, sans narcissisme, hein, rendant hommage à toutes les vies brisées, en partant d'une part de son parcours pour embraser le collectif à travers une réflexion sur les dégâts physiques et psychologiques causés par la guerre. Alors la matière littéraire aurait pu verrouiller l'inspiration de Jean-Denis Bonnand, hein, le condamné à illustrer finalement ces mots terribles et désespérés qui nous violentent. Alors une lumière sombre inonde ce geste cathartique, cette injonction poignante adressée à l'humanité, ne recommencer jamais. Mais c'est finalement hors champ, ou plus entre les lignes, hein, que l'espoir réside. Bonnand a sans doute désiré restituer cette possible ouverture à travers sa mise en scène, aussi sophistiquée qu'épurée, en dépit du manque de moyens. Car dès les premières images, le réalisateur affirme une approche radicale du cinéma, articulant le texte, les images et les sons avec une attention permanente, alors créant quelque chose d'idéal pour illustrer le propos de l'écrivain, soulignant en creux l'idée de vivre, de ne jamais perdre espoir. Alors, ausculter un passé honteux permet aussi de clamer haut et fort la soif de vivre, ce que le bleu du titre indique, et de réparer une injustice en rendant hommage à tous ces anonymes n'ayant pas réussi, à l'image d'Hula, à survivre à l'horreur. Alors, Jean-Denis Bonnard casse un travail fascinant sur les textures sonores et les régimes d'images, alors intégrant des flous, des ondes, des décadrages, des surimpressions. C'est très godardien, hein, c'est-à-dire que si on aime les derniers Godard, on peut aimer ce film. Alors, proche parfois de l'art vidéo, si décrié dans le milieu du cinéma, alors il insuffle une dynamique et une vie à un film qui ne pourrait être que mortifère. La beauté des cadrages s'avère presque apaisante, insufflant alors un climat de sérénité au milieu d'un verbe tranchant, hypnotique, à force de répétition et d'une noirceur absolue. Il se refuse d'intégrer des images d'archives collant de trop près au texte, condensé en moins d'une heure, hein, Bleu Palebourg, est un film hanté par les souvenirs de la guerre, par des fantômes qui ressurgissent, des lieux dévastés. Mais il ne cherche pas à plomber le spectateur, même si l'expérience n'est pas facile. C'est un film difficile, mais très beau. On peut se laisser porter aussi bien par les images que par les mots.
C'est aujourd'hui dimanche, et j'allais voir maman. J'ai pris ses roses blanches. Là-bas, elle m'attend.
Alors, on le répète, un bleu Pambour, donc c'est un film confidentiel, effectivement, qui va être pris par certaines salles.
Il va tourner en France et il va accompagner le film avec des conférences et un débat autour du film. Voilà.
Et c'est en salle, donc, tout de même, depuis le 16 octobre, tout comme Faïm de Pierre-François Martin Laval, un feel-good movie autour des échecs et parlant des migrants. C'est ça, Marine, hein.
Tout à fait.
Avec vous, j'ai du travail soigné.
Cinérama.
Et ça, c'est clair.
Bam.
Il est un petit peu dur.
Tête d'huître.
Ça a pas de tête, une huître.
Un peu bourru, quoi.
Fais chier.
Je suis sûr que vous allez très bien vous entendre.
Et qu'est-ce qu'il veut, lui?
I want to be champion of the world.
Tout le monde dehors.
Alors déjà, j'aimerais commencer par remercier les distributeurs du film qui nous infligent dans toute la ville en 4x3 l'affiche la plus mièvre et de loin de cette rentrée, Isabelle Nanty, collée serrée contre Gérard Depardieu qui sourit de toutes leurs fausses dents pour nous donner envie de venir voir cette belle histoire pleine d'espoir. Alors oui, c'est vrai, c'est une belle histoire, pleine d'espoir. Et c'est une histoire vraie, surtout. Faïm est un jeune migrant bangladais qui arrive à Paris avec son père et qui se fait bientôt arrêter par la police. Conduit dans un centre pour mineurs, il découvre les échecs et se découvre surtout un véritable talent pour ce sport qui va le conduire au championnat du monde alors qu'il n'est encore qu'un enfant.
Vous faites une demande d'asile en France. Votre demande est refusée. Vous avez un mois pour quitter le territoire.
Départ pour le championnat de France, lundi 6h45.
Ça déchire.
Et c'est parti. Il y a plus d'aventures sur un échiquier que sur toutes les mers du monde. Donne-lui sa chance. J'ai vu de la passion. J'ai vu des nains devenir des géants.
À vous ?
Alors on a préféré ne pas vous passer la bande-annonce entière parce que comme toutes les bandes-annonces de 2019, eh bien elle contient des gens qui rient, des gens qui s'engueulent, des gens qui pleurent, des gens qui s'embrassent et surtout elle contient pratiquement tout le film puisqu'elle dure environ 2 minutes 30 comme toutes les bandes-annonces, je le répète, de 2019 et c'est un vrai problème, mais on en parlera plus tard. Faïm, c'est le premier film dramatique réalisé par PEF, donc Pierre Martin, François Laval, non j'ai dit dans le mauvais sens les... Pierre-François Martin Laval, PEF c'est... donc, que l'on connaît à la base des Robin des Bois, qui avait jusque-là eh bien, signé uniquement des comédies et notamment des adaptations de bandes dessinées telles que Gaston Lagaffe ou Les Vacances de Ducobu. Et il a été touché eh bien, par cette histoire assez incroyable qui avait défrayé la chronique il y a quelques années de cela en France. Alors Faïm, ce n'est pas un mauvais film, hein, c'est un gentil feel-good movie. Ne vous attendez pas à recevoir une leçon de cinéma. D'ailleurs, on sent que ça n'est pas du tout l'intention du réalisateur qui opte pour une mise en scène discrète, pour des dialogues gentillés et un rythme, il est vrai, plutôt efficace. Non, c'est juste un petit peu insipide. Je l'ai vu en avant-première en juillet. Et au moment d'écrire cette chronique, bien, je me suis rendu compte qu'il ne m'en restait rien. Même pas une image, même pas un plan. D'ailleurs, peut-être que je me suis trompée, que j'ai chroniqué un autre film, hein, sans le savoir, qui n'a rien à voir. Non, ce qui est intéressant et important, parce que le cinéma, ça sert aussi à ça, c'est que le film permet une immersion au sein d'une famille immigrée illégalement à Paris. C'est-à-dire le genre de personnes, finalement, qu'on côtoie quotidiennement sans savoir réellement ce qu'elles traversent. Et il est vrai que traiter ce sujet par le biais de la comédie dramatique, plutôt qu'en faisant un drame social rébarbatif, eh bien ça permet finalement de sensibiliser un vaste public à cette cause, à la cause des migrants. Ce film leur donne une humanité, une histoire, et c'est pour ça que même si je ne l'ai pas adoré, eh bien j'espère quand même sincèrement qu'il va marcher.
Et sinon, Monsieur Depardieu, comment est-il dans ce film ?
À bout de souffle, comme dans tous ses films. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il va faire un AVC, quoi. Enfin, je trouve qu'il est extrêmement surcoté depuis quelques années. C'est-à-dire que, sincèrement, sa forme physique, je pense, déteint sur son jeu. Je pense qu'il est extrêmement surcoté. Il a une présence physique. Est-ce qu'on peut encore dire qu'il joue bien ? Sincèrement, je ne suis pas sûre.
C'est vrai que sa présence est physique parce que dans la bande-annonce de 2 minutes 19, effectivement,
il tape beaucoup sur les murs.
On voit taper sur le mur. Oui. C'est une espèce de running gag ou de gimmick de son personnage, donc de professeur d'échecs. C'était Faïm et c'était le dernier film que nous chroniquions dans cette émission. Tous les films dont nous avons parlé sont en salle depuis le 16 octobre.
C'est fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oh, c'est pas possible !
Ah, si, je vous assure.
Vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez ma gueule !
La semaine prochaine, nous parlerons de Hors Normes, notamment le dernier film de Nakache et Toledano, et puis du dernier Ken Loach, Sorry, We Missed You.
Et puis du dernier film de Kiyoshi Kurosawa, Au bout du monde, et je parlerai aussi d'un film de zombies, Little Monsters.
Et pour ma part, entre autres, je vous parlerai de La ressortie de la piscine.